France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Ce midi, portrait d'un chef porté par l'amour du bien manger. Il a fait de la cuisine un rendez-vous incontournable autour du pain chaud, du vin frais, des saveurs mêlées, des histoires, des rires, des larmes, des baisers. C'est ainsi que la journaliste Catherine Roig décrit sa table dans l'épais et généreux livre qu'elle lui consacre intitulé « Boire, manger, vivre » et paru à l'automne 2024. Il est une star dans son pays, Israël, où il possède à peu près 7 restaurants, mais il a essaimé autour du monde, de Londres à Berlin, de Saint-Barthélemy à Casablanca et de Madrid à Paris, où il a 4 adresses, dont une étoilée, et où il est question qu'il en ouvre une 5e d'ici la fin de cette année 2025. Assaf Granit, bonjour et bienvenue.
Shalom, hi.
Bonjour, salut.
Salut aussi à la voix française Michel Zlotowski. C'est de Paris que nous allons parler pour commencer, si vous le voulez bien, puisque nous y sommes à Paris, à Assaf Granit, et que vous y avez 4 adresses, dont 3 dans le 2e arrondissement, rue Saint-Sauveur, Capara, Chapour, Tekes, Chana. Et pour la 5e, vous avez choisi les quais de Seine à 2 pas de la Maison de la Radio, ce qui nous fait très plaisir si cette adresse voit le jour. Vous aimez beaucoup Paris ?
J'aime beaucoup Paris et c'est bien que nous commencions par parler de Paris et de Jérusalem aussi, si vous voulez bien, parce que Jérusalem, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, et Paris, c'est la ville de laquelle je suis tombé amoureux, et ces deux villes sont malgré tout très semblables.
Vous êtes tombé amoureux de la ville et de la cuisine française ?
Je suis tombé
amoureux de Paris, pas seulement pour la nourriture, l'esthétique, l'histoire.
Et
bien entendu, ce que signifie Paris en tant qu'emblème de la nourriture à travers le monde. Et en tant que jeune cuisinier, mon rêve était de manger à Paris.
Ah oui.
Je ne pouvais pas rêver qu'un jour j'aurais ici des restaurants, et encore moins une étoile au Michelin.
Encore moins une étoile.
Et donc pour moi, toute cette époque, c'est comme un conte de fées.
Chaque adresse a son concept, Assaf Granit. Chaque concept a son histoire. Dans les restaurants parisiens qui sont les vôtres ici, quel type de cuisine proposez-vous ? Est-ce qu'il y a un lien entre Chabour l'étoilé et Tekes le végétarien, par exemple ?
En fait, l'idée de base dans tous les restaurants, que ce soit le restaurant avec une étoile ou le restaurant le plus simple qui soit, la volonté d'être un pont entre Jérusalem et Paris. Et ce pont peut fonctionner dans les deux sens. Et en général, il y a une influence de l'un sur l'autre, qui s'enrichissent les uns les autres. Parfois, c'est l'épice ou ce que j'ai mangé comme enfant en tant que Jérusalem. Et parfois, c'est quelque chose que j'ai vu ou une peinture que j'ai vue dans un musée parisien. Et finalement, c'est le mariage des deux.
Un pont, donc, est le mot qui revient le plus souvent quand on travaille sur vous et quand on lit le livre qui vous est consacré, Assaf Granit. C'est l'hospitalité, c'est l'émotion, une cuisine généreuse, métissée, mais surtout d'émotions. Et d'ailleurs, je crois, mais ça vous allez me le confirmer ou pas, mais que dans tous vos restaurants, la cuisine est ouverte sur la salle pour que vous fassiez un pont aussi entre les cuisiniers et les clients. C'est vrai ?
כשהחלטתי לפתוח מסעדה בעצמי.
J'ai décidé d'ouvrir moi-même un restaurant.
הלכתי לאכול במסעדה של שף.
Je suis allé manger dans le restaurant d'un chef très connu il y a 20 ans. Tout le monde parlait de ce restaurant et c'était un Megastar. J'ai attendu deux semaines pour aller dans ce restaurant, pour avoir une place. Je suis arrivé et tout était tellement beau, les chandeliers, les plats et les serveurs qui avaient des costumes très stricts. Et j'étais tellement ému par cette aventure jusqu'à ce que la serveuse vienne. Elle a jeté les menus sur la table.
Et
tout est devenu extrêmement technique, rien de personnel, rien d'émotionnel, rien. Et j'ai dit à Uri, mon associé, quand nous, on va ouvrir notre restaurant, il faut trouver une façon d'éviter ce manque d'humanité. Donc, sans trop réfléchir, ce qu'on a fait, on a ouvert la cuisine. Et lorsque la cuisine est ouverte, alors l'expérience n'est pas simplement l'expérience du client, c'est aussi l'expérience du cuisinier.
Et
donc il y a deux aventures qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui deviennent une aventure commune.
C'est
un peu comme
une
rencontre amoureuse. Il y a deux parties qui attendent cette rencontre, qui se voient pour la première fois, et puis voilà, il faut créer cette énergie.
C'est une énergie, c'est aussi une rencontre qui se fait sur le plan de l'accessibilité. Disons, est-ce que c'est important pour vous, à Sab Granit, l'idée que le plus grand nombre puisse avoir accès à votre cuisine? Je vous pose cette question parce que vous êtes l'un des chefs stars invités d'un festival à Paris, Taste of Paris 2025, qui fête son 10e anniversaire sous la nef du Grand Palais, ça n'est pas rien. Et ce festival a pour ambition de démocratiser l'accès à la haute gastronomie, ce qui fait que pendant quelques jours, il accueille les plus grands chefs qui sont venus cuisiner pour le grand public à des prix allant de 6 à 12 euros. Alors, est-ce que cette idée de démocratiser, qui va avec l'idée d'hospitalité, c'est important pour vous ?
C'est la raison pour laquelle j'ouvre tellement de restaurants dans tellement d'endroits, selon des concepts différents. Depuis quelque chose de très quotidien et vers des repas qui sont à un prix plus élevé, comme celui de Chabour, parce que ce que j'ai à dire, c'est pas simplement la nourriture. Ce que j'ai à dire est aussi une philosophie. Et je raconte une histoire, un récit de beaucoup d'histoires, de beaucoup de gens. Et je veux que la plus grande partie des gens qui viennent chez moi entendent et voient cette histoire.
Une histoire qui est aussi une histoire personnelle. À Sab Granit, une histoire qui vient de votre famille, avec un côté polonais, l'autre allemand, une famille décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale, une figure centrale qui est la grand-mère. D'ailleurs, il y a deux grand-mères, Bertha et Léa.
C'est pas seulement ma famille, parce que j'ai des associés, et c'est pas simplement la Pologne et l'Allemagne, c'est aussi le Maroc, le Kurdistan, l'Irak, l'Iran, et beaucoup de pays qui composent notre histoire personnelle, les plats que nous servons. Et je pense que ce mélange, les contrastes entre tellement de cultures, eh bien, c'est ce qui transforme cette cuisine et ce récit en quelque chose de tellement intéressant.
Et c'est ce qu'on retrouve dans la deuxième ville que vous aimez, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais qui est en fait la première, votre ville de naissance, votre ville de cœur, et l'endroit où vous avez vos restaurants, c'est Jérusalem. Pourquoi d'ailleurs pas Tel Aviv, où vous habitez ?
J'ai
toujours dit que si j'ouvre un restaurant qui n'est pas à Jérusalem, et que je mets l'énergie et le temps qu'il me faut pour un nouveau restaurant, alors je préfère ouvrir un restaurant dans une nouvelle ville et dans un nouveau pays. Parce qu'Israël, c'est un tout petit pays, vous savez. On n'a pas besoin d'encore un restaurant supplémentaire en Israël. Et j'avais la volonté de sortir notre récit en dehors des frontières d'Israël. Londres, Paris, Berlin, ça m'a plus intéressé que Tel Aviv.
Mais du coup, vous ne cuisinez plus ? Asaf Granit, vous dirigez des opérations de loin.
C'est pas vrai, je cuisine énormément. Je suis très souvent en cuisine, moins ce que je souhaiterais. Mais je suis encore beaucoup en cuisine.
Vous êtes en cuisine, souvent d'ailleurs à Jérusalem, peut-être allez-vous dans un endroit que vous aimez beaucoup et qui a beaucoup d'ambiance, on va en écouter un extrait. Est-ce que vous reconnaissez cette ambiance de marché ?
Évidemment, je la reconnais. Quand j'étais enfant, ma grand-mère, Léa, tous les jeudis, allait au marché, au souk. Toujours, jeudi. Elle allait jamais au super, elle allait au marché. Et j'allais avec elle, pour porter les sacs, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai connu le souk, le marché. Chaque semaine, jusqu'à ce qu'elle meure, j'y suis allé avec elle chaque semaine. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus me promener dans le souk parce que, en Israël, parce que j'apparais à la télé, donc j'ai une certaine célébrité, je ne peux plus y aller à pied parce que les gens m'ennuient. Donc là, vraiment, j'ai la mélancolie et je regrette de ne plus pouvoir aller dans le souk.
Machane Yehuda, hein, c'est le nom de ce marché qui est le ventre de Jérusalem. Et c'est Machane Yehuda, le nom du restaurant originel que vous avez créé à Jérusalem. Est-ce que vous diriez, puisque vous disiez tout à l'heure, Asaf Granit, que votre cuisine, ce n'était pas seulement une cuisine, ce n'était pas seulement l'assiette, mais c'était aussi une philosophie de l'hospitalité, de l'accueil. Est-ce que vous diriez que la table est plus importante que jamais aujourd'hui pour donner un peu de réconfort, un peu de bonheur aux gens, en particulier dans votre pays ?
Oui, c'est un récit très intéressant. En parler maintenant, vraiment, ça a beaucoup d'importance. Je vais vous raconter une histoire brève. Le 7 octobre, je revenais en Israël et je suis allé directement sous les drapeaux pour combattre. Et pendant la guerre, je me suis retrouvé à rentrer parfois chez moi à la maison et j'arrivais au restaurant, j'enlevais l'uniforme et je mettais l'uniforme de chef. Et je cuisinais, je versais du vin. Et les premiers jours, j'arrivais pas à le faire, j'arrivais pas à cuisiner. Parce que dans ma tête, ça allait pas. Là, je suis en train de verser du vin à quelqu'un et mes copains, ils sont au front. Et ils meurent, ils sont blessés. Et la distance entre Gaza et Tel Aviv, c'est 2h15 en voiture. Ça rentrait pas dans ma tête. Et j'ai pas réussi à cuisiner. Et la nuit, je m'endormais pas. Je commençais à lire des livres. Et je suis tombé sur l'histoire de Christian Dior. C'est une histoire que je connaissais pas, sur Catherine Dior, sur sa sœur. Elle était dans la résistance française. Les nazis l'ont capturée. Et puis après, elle a été libérée des camps et puis elle est revenue. Et quand elle est revenue chez Christian, il a commencé à s'occuper d'elle. Et il lui a donné une petite bouteille de parfum un jour. Il lui a dit, j'espère que ça va t'aider un petit peu à pas penser à tout ce que tu as vécu. Elle lui a dit, attends, tu crois que le parfum va m'aider à oublier mon traumatisme ? Il lui a dit, je suis désolé, c'est tout ce que je sais faire, des vêtements et des parfums. Et dans l'histoire, on on apprend que ce parfum, c'est Miss Dior, le parfum Miss Dior. Un parfum qui est encore sur le marché. Et il a appelé ce parfum du nom de sa sœur. Elle lui a dit un jour, l'histoire dit que c'était une seconde avant le défilé de mode New Look. Elle lui a dit, Christian, tu sais que parfois que je me suis senti mal, que je me souvenais des nazis, j'ouvrais cette bouteille de parfum, je la humais, et je me souvenais de la maison de papa et maman en Normandie. Il a dit, tu sais pourquoi ? Parce que ce parfum est fait de toutes les fleurs du jardin de nos parents. Et après que j'ai lu cette histoire, je suis retourné au restaurant, j'ai réuni toute l'équipe, et je lui ai dit, écoutez, vous devez comprendre que ce que nous faisons ici, c'est exactement ce que le parfum de Christian Dior a fait pour sa sœur. Pendant 2 heures et demie, nous donnons aux gens la possibilité de fermer les yeux et d'oublier tout ce qui se passe autour de nous, d'oublier la mort, d'oublier les kidnappés, la guerre, les blessés, le conflit. Pendant 2 heures et demie, au lieu de fleurs, eh bien, nous avons de la nourriture, du vin, de la musique et un service. Et ça, ça m'a donné la force de revenir à la cuisine et de comprendre le sens, le véritable sens que c'est d'être chef dans un restaurant. Et c'est resté avec moi jusqu'à présent.
Alors la cuisine israélienne, elle est marquée par le fait que les Israéliens sont des personnes qui bougent beaucoup, qui n'ont pas de racines spécialement et qui apprennent très très vite. Ici, il y a un sentiment de présent très fort. Il n'y a pas de compte avec le passé et il n'y a pas vraiment de certitude sur l'avenir. Et donc, il y a une envie toujours d'énergie présente, de joie présente. Et c'est ce qu'on retrouve dans la cuisine israélienne. C'est beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup de saveurs. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence du fait qu'il y a ce présent qui soit là dans les assiettes.
C'était un autre chef emblématique d'Israël, de Tel Aviv, je crois. Eyal Shani, il était sur France Inter en 2017. On le surnomme le roi du chou-fleur en Israël. Assaf Granit, vous êtes notre invité dans Les Bonnes Choses ce midi. Il dit la cuisine israélienne, c'est une cuisine qui est une cuisine du présent. Il n'y a pas de certitude sur l'avenir. Et donc, les Israéliens, ils ont envie de mouvement, ils ont envie de joie, ils ont envie de saveur, ils ont envie de couleur par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Ça a du sens, ça, cette cuisine du présent.
Nous sommes un pays d'exil. Donc, il n'y a pas un passé. C'est un mouvement. C'est un mouvement de gens. Du Maroc vers Jérusalem. Du Liban vers la Galilée. De l'Allemagne vers Tel Aviv. Ce sont des mouvements. Un mouvement constant. Et un mouvement, parfois, c'est quelque chose de positif. Comme par exemple un pèlerinage. Parfois c'est négatif, en raison de la Shoah. Mais tout le temps, les gens bougent et sont arrivés à cet endroit-là. Et même dans cet endroit-là, ils bougent. Ils bougent pas physiquement, mais ma voisine, quand j'ai grandi, c'était une Marocaine. Donc mon mouvement, c'était de mon salon à son salon à elle. Et ma bouche aussi bougeait, voyageait. Parce que j'ai pas mangé seulement ce qui venait de mon passé. Mon passé, c'était le gefilte fish, la carpe farcie. Et puis le klops, la viande hachée. Et quand je suis allé chez ma voisine, je suis allé chez elle, et soudain ma bouche aussi voyageait. Et soudain, c'était le chraïme, le couscous. Et donc ce qui s'est produit, c'est que tout ce mouvement et cette rencontre entre les cultures, ça représente le présent. Et ce présent ne s'occupe pas de l'avenir, il s'occupe du temps présent, maintenant. Parce que on vit tout le temps dans un sentiment que on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, il faut vivre au maximum le jour d'aujourd'hui. maximum de couleurs, le maximum de goût, le maximum de sel, de citron, de poivre, maximum d'huile, le maximum de feu, d'amour, tout au maximum. Parce que demain, on ne sait pas.
Mais comment on traduit ça dans une assiette? Comment ça se traduit dans un plat, dans une recette à sa granite?
C'est emotion, exploding emotion.
C'est une explosion d'émotion.
C'est knowledge, ok.
C'est du savoir.
Donc
il faut apprendre comment préparer le chraïm. Donc on apprend la technique, on apprend les composantes. Et puis ensuite, quand c'est dans votre cuisine et que ça rencontre vos émotions, alors on ajoute un petit peu de citron là. Et puis donc il y a une nouvelle technique qui apparaît. Et finalement, c'est le respect de l'héritage, de la tradition, c'est-à-dire il faut vraiment apprendre, connaître jusqu'au fond. Je vais donner un exemple. Il y a un gâteau qu'on prépare dans tous nos restaurants, que l'on appelle basbousa. C'est de la semoule.
C'est,
vous savez ce que c'est la semoule, hein, la semoule de blé. J'ai jamais réfléchi pourquoi est-ce que c'est le gâteau le plus extraordinaire. Pourquoi on le prépare pour le nouvel an ou pour des invités de marque. Donc j'ai commencé à apprendre quelle était l'histoire de ce gâteau. Et j'ai découvert que à l'époque où le second temple existait à Jérusalem, quand on passait à la meule le blé, eh bien, on donnait véritablement la farine aux gens, et ce qui restait, c'était le cœur du grain de blé. Et ça, on le donnait au sacrifice au temple. Donc c'était quelque chose qui était censé être le meilleur. Et après que le temple ait été détruit, la façon de le réaliser, ça, c'était de faire un gâteau de semoule. Donc qui représentait le sacrifice. Et après avoir compris l'histoire de ce plat, de ce gâteau, et qu'on a l'assurance de pouvoir faire des changements, alors, on a un accès professionnel à ce qu'on fait. Et puis, on réfléchit. D'accord. Ah oui, non, là, c'est un petit peu trop sucré. Il y a un petit peu un goût d'orange. Qu'est-ce qu'on va mettre? De la trina? Ah oui, non, mais c'est... Non. Alors, on va faire une glace à la trina. Glace au sésame, c'est ça. Et là, tout se tient véritablement. Tout se lie.
Et en même temps, vous ne faites pas la même cuisine à Saf Granit avec vos complices, Uri Navon, Tomer Lanzmann et Dan Yosha. Vous ne faites pas la même cuisine selon que vous êtes à Paris ou en France, parce que vous avez aussi un restaurant au Cap d'Antibes, je crois, à Barcelone, à Londres ou à Jérusalem. J'ai sous les yeux ce très beau livre qui est à la fois un livre personnel qui vous raconte et qui raconte votre cuisine. Et Catherine Roig écrit par exemple, je vais la lire, les produits et les codes de la cuisine française, elle parle de votre cuisine française en l'occurrence, se mêlent aux saveurs et aux références israéliennes. Et elle parle de chabour. Et la magie opère. Le sablé au zaatar est présenté dans une boîte des célèbres bonbons négus, contenant elle-même un talisman oriental. La madeleine, posée sur un cube de pierre de Jérusalem, est glacée à la feta et accompagnée de yaourts aux olives séchées parsemés de sumac. Le topinambour, cuit dans un beurre à la muscade et condimenté de choux yéménite, est servi dans un plat à escargot frenchy en diable. Et l'oursin marseillais, alangui sur une pita, matiné de pois chiches et de citron vert, fait référence au hérisson Shmulikipod, héros du livre préféré de Léo, le petit garçon d'Assaf. Donc on voit bien que c'est très compliqué tout ça. C'est pas simplement une crêpe Suzette avec un tahine, c'est beaucoup plus raffiné, et puis c'est vraiment une imbrication de tout.
Et la raison pour laquelle ça ne se répète jamais et que ça change, parce que ce pont que nous créons, le pont entre Jérusalem et un autre lieu, donc le lien avec Berlin, bah c'est à Berlin. Et avec Londres, bah c'est Londres. Et ça nous aide beaucoup pour notre créativité. Ça nous aide beaucoup parce qu'on se développe en tant qu'individu, tout le temps. Il faut apprendre, à chaque fois il faut apprendre la culture d'une nouvelle ville.
On dit à Savgranit que vous êtes l'un des premiers à avoir renouvelé la cuisine israélienne, qui est difficile à définir. On pourrait presque dire que c'est un balagan, pour reprendre le nom d'un de vos restaurants originel, un joyeux bordel, quoi. C'est-à-dire un concept assez flou, fait de ce melting pot de culture, cette mosaïque de culture et de saveurs, mais que donc vous l'avez renouvelé parce que, par exemple, il y a 15 ans, c'est assez récent, hein, cette arrivée des chefs, il y a 15 ans, utiliser des produits frais, locaux et de saison, c'était tout nouveau à Jérusalem. Comment expliquez-vous cette modernisation, ce renouvellement ou même ce nouvellement de la cuisine israélienne? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 15 ans, tout d'un coup, vous avez eu cette idée-là, vous et d'autres?
C'est
une histoire drôle parce que il y a eu un programme de télé en Israël. C'est une bagarre entre chefs. On a fait venir le chef que les Israéliens devaient battre. C'était un chef français. Stéphane Froidevent.
C'était
le chef français. Et à chaque émission, il écrasait les chefs israéliens. Parce qu'ils essayaient tous de faire des plats compliqués à la française, français. Vous n'allez pas battre un chef français qui fait de la cuisine française, quand vous faites aussi de la cuisine française. Donc quand on m'a proposé d'aller à ce programme, j'ai dit bon d'accord, mais comment je vais réussir à le défaire, à le battre? Je suis qui? Je suis quoi moi? Je suis un Yerushalomite. Donc je vais faire venir Jérusalem dans mes assiettes. Donc on a fait quelque chose qui représente totalement Jérusalem. Et les plats vont représenter Jérusalem aussi. Donc tout venait de Jérusalem. Et on a gagné. J'ai pris le peu d'argent que j'avais avec Uri et on a ouvert Machane Yehuda. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est le récit que nous voulons donner. Mettre Jérusalem, toute Jérusalem, y compris Jérusalem Est et le Jérusalem Ashkenaz et Sepharad, la pauvre, la riche, et l'ultra-orthodoxe et la laïque, tout, on voulait la mettre dans ce récit.
Et c'est réussi, c'est ce que vous avez fait. Quelques années plus tard, vous voilà à Savgranit, du haut de ces quelques dizaines de restaurants, dont 4, 5, peut-être 6 et plus, ici en France et ici à Paris. Merci beaucoup d'être venu nous voir aux Bonnes Choses ce midi. Et merci aussi pour la recette de la mousse au chocolat, huile d'olive et fleurs de sel qu'on trouve dans ce fabuleux livre et que vous nous offrez pour le site des Bonnes Choses. Un grand merci encore à Savgranit.
Beaucoup de m'avoir permis de penser à nouveau à mon histoire.
Taste of Paris, c'est du 8 au 11 mai au Grand Palais. Vous proposerez aux Parisiens une immersion dans l'univers culinaire de Chabour, le restaurant étoilé, rendu donc accessible aux amateurs pendant quelques jours. Merci beaucoup Michel Zlotowski d'être revenu nous voir, ça faisait longtemps. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. J'ai oublié d'ailleurs de dire que le livre, très beau livre, ça je l'ai déjà dit, mais très beau livre, Boire, Manger, Vivre, du nom d'ailleurs d'un master à Sciences Po Lille, est édité chez Hachette Cuisine. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France avec la petite équipe des Bonnes Choses, Seam Boutata à la documentation, Daphné Leblon à la réalisation et Alexandre Drang à la prise de son. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.